Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Emmanuel Thibaou, réélu président de l'UC, réuni ce week-end dans le Congrès de l'Union calédonienne, réaffirme son rejet de l'accord Élysée-Oudinot. Rencontrer les parlementaires pour leur expliquer la nécessité de mettre en œuvre cet accord, c'est justement la volonté des groupes politiques favorables à l'accord signé il y a une semaine. En Australie, pas de cérémonie officielle pour l'Australia Day. La fête nationale australienne a toutefois donné lieu à de nombreuses animations. En métropole, Emmanuel Macron veut accélérer pour interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il souhaite que la mesure soit effective pour la prochaine rentrée scolaire en septembre. Et puis à l'étranger, une partie des États-Unis grelotte. La neige et les températures polaires jusqu'à moins 45 degrés paralysent une grande partie du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal Le Sport. Nous en parlerons dans le MAC des Sports à la fin de ce journal. Bonjour Michael Juneski.
Bonjour Jean-François.
Beaucoup de résultats encore cette semaine et notamment de la voile avec cette très très belle performance de Thomas Coville en équipage.
Exactement, il est entré un peu plus dans l'histoire. Arrivé à bon port hier soir après avoir battu le record du Tour du Monde en solitaire, il a récidivé cette fois avec l'équipage de Sodebo. Les Sodeboys, comme on les appelle, ont remporté le trophée Jules Verne, le maxi trimaran qui a fait le tour du globe en 40 jours, 10 heures et 45 minutes.
Et puis nous parlerons évidemment tennis avec la deuxième semaine de l'Open de Melbourne.
Ah oui, la hiérarchie qui a globalement été respectée jusqu'à présent. On pourrait se diriger chez les messieurs vers de beaux chocs en fin de semaine. Carlos Alcaraz toujours de la partie, tout comme l'allemand Alexander Zverev. Yannick Sinner jouera lui ce soir contre son compatriote italien Luciano Darderi. Et Novak Djokovic passe directement en quart de finale après le forfait de son adversaire du jour, le Serbe, qui peut encore croire à un 25e sacre en grand chelem.
Et dans la page consacrée à l'actualité sportive en Calédonie, nous parlerons force athlétique avec notre invité.
Oui, jamais rassasié, Axel Raymond prépare une nouvelle échéance internationale. Après son deuxième titre de vice-champion du monde décroché l'année dernière en Afrique du Sud chez les Masters, il part à la conquête de l'Europe. Il sera engagé dans la compétition continentale du 8 au 15 février prochain en Finlande. Il sera donc notre invité dans les studios d'RRB.
Le magazine des sports à retrouver donc dès la fin de ce journal. L'Union calédonienne joue la continuité. Son 56e congrès, qui était réuni depuis vendredi à la tribu de Penelo à Marais, a reconduit le bureau élu il y a un peu plus d'un an. Il a notamment réélu Emmanuel Thibaou à la présidence de l'UC, Elisabeth Noir.
Mais que ce fut long, comme souvent. Les travaux se sont clôturés vers 4 heures ce matin, après la reconduction du bureau sortant et l'élection au second tour de scrutin d'Emmanuel Thibaou à la présidence de l'Union calédonienne. Une réélection qui est loin d'être un plébiscite. Au premier tour, il y avait 4 candidats, le président sortant, mais aussi Jacques Lallier, Nadine Pidgeot et Gaston Nédénon. Au deuxième tour de scrutin, Emmanuel Thibaou était le seul candidat en lice, mais il n'a été élu qu'avec 139 voix. Il y a eu 58 bulletins blancs et 3 bulletins nuls. Tôt ce matin, Emmanuel Thibaou est revenu sur les priorités de sa mandature au micro de Kalinda Bouakou. L'objectif de l'UC, dit-il, va être de s'opposer au processus de l'accord de Bougival. L'UC qui va donc effectuer un travail auprès des parlementaires pour tenter de faire achoper le processus.
Les priorités, c'est de faire le point sur l'avancée de notre engagement pour accéder à la pleine souveraineté à échéance 2025-2030, qui est pour nous la quatrième décennie de l'éradication du colonialisme. Il y a certainement eu une phase de discussion de février qui nous a amené pour le FLNKS jusqu'à juillet. Aujourd'hui, encore une fois, je dirais qu'avec les dernières échéances qui se sont tenues à Paris, la semaine dernière, aujourd'hui, on se doit de s'avancer et de contester cet accord qui a été signé sans la notion même de consensus qui avait été négocié à Paris lors du report des élections provinciales. Rappeler que c'est la condition de stabilité de tout accord politique dans notre pays.
Emmanuel Thibaou, on le sait, a signé l'accord de Bougival le 12 juillet dernier avant de retirer sa signature et de rejeter en bloc cet accord. De la même manière, il critique très vivement aujourd'hui l'accord complémentaire Élysée-Oudinot.
À partir du moment où l'État décide d'engager la discussion sans le FLNKS, sans le mouvement de libération et sans l'Union calédonienne, le processus législatif constitutionnel est engagé à Paris et c'est les arguments qu'il faudra faire valoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, en portant notamment l'attention des parlementaires sur un certain nombre de dispositions qui, pour nous, sont contraires aux engagements pris par l'État de 88. On estime que l'hyperprovincialisation a été mise en œuvre dans cet accord politique, dans ce projet d'accord politique. C'est cela que l'on a contesté dans le rejet de Bougival. Et c'est sur cet aspect-là qu'on souhaite revenir aujourd'hui dans les discussions. discussion, pour rappeler les engagements qui ont été ceux de la France d'accompagner la Nouvelle-Calédonie vers la trajectoire d'émancipation, qui est pour nous l'indépendance.
L'Union calédonienne veut aussi s'engager dans le processus électoral et notamment dans les élections municipales dans l'agglomération de Nouméa. C'est ce que souligne Emmanuel Thibault quand on lui demande le bilan de ces 3 jours de congrès.
3 jours de débats intenses, 3 jours où il est nécessaire de faire le point. Rappeler que l'UCE, c'est 13 communes. Il y a des échéances qui arrivent. On a des conseillers au nord, au sud, aux îles, dans les communes de l'Aglo aussi sur Nouméa. Donc certainement, on a vocation à faire valoir notre position qui est une position politique et qui s'appuie aussi sur ce qui s'est passé le 13 mai. Rappeler que ce qui s'est passé dans l'agglomération. Et que c'est de fait aussi prendre les leçons de ce qui s'est passé pour réaffirmer non seulement l'unité du pays, mais le fait que les politiques publiques de discrimination n'ont plus lieu d'être. Et que si aujourd'hui, on s'engage dans cette trajectoire qui est celle de suivre un calendrier électoral. On s'engage aussi dans les travaux de discussion parlementaire. On doit aussi faire valoir la position des indépendantistes.
Le président de l'Union calédonienne qui rappelle enfin, si besoin était, l'engagement de son parti en faveur de l'indépendance. Et ce sera le mot d'ordre pour ses prochaines échéances électorales.
Quand bien même nous avons décliné l'invitation qui nous a été formulée à assister au débat institutionnel à Paris, en aucun cas ça remet en cause la légitimité de notre engagement démocratique, je le rappelle. Nous, on est indépendantistes parce que c'est la démocratie qui nous permet d'exprimer ce droit et donc on compte bien l'affirmer à l'occasion des échéances électorales qui s'annoncent.
Une interview recueillie sur fond de chant de clôture de ce 56e congrès de l'UCE qui a donc reconduit le bureau qui avait été élu en novembre 2024 à la tribu de Mia à Canala. Emmanuel Thibault reste le président de l'Union calédonienne. Les deux vice-présidents sont Pierre-Chanel Toutougoro et Michael Forest. Christian Théin reste commissaire général. Hervé Théin-Taouva est le commissaire général adjoint. Dominique Fauchy est le secrétaire général de l'UCE. Le premier secrétaire général est Romuald de Pidjo et Amandine Darras est la deuxième secrétaire générale.
Et le positionnement de l'Union calédonienne a été commenté par Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était ce matin notre invitée. Elle vient de rentrer de Paris, où elle a participé aux discussions qui se sont déroulées à l'Élysée et à Oudinot.
Virginie Rufnak, signataire au sein de la délégation du Rassemblement de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot, elle regrette l'attitude de l'Union calédonienne et les premières déclarations d'Emmanuel Thibault après sa réélection à la tête de l'UCE.
Ça fait des années qu'ils jouent désormais le jeu de la terre brûlée, de la chaise vide, des retours calculés autour de la table, qu'ils confondent finalement cette table des discussions et du dialogue avec la table du petit calcul politique. J'entends encore ce matin Emmanuel Thibault dire que leur seul objectif désormais, c'est de s'opposer. Et finalement, depuis des mois et des années, à part s'opposer, à part avoir fait cette politique de l'enlisement de la Nouvelle-Calédonie, qu'ont-ils proposé ? Donc véritablement, je suis très triste qu'un tel partenaire n'ait pas été autour de la table. Et finalement, même quand on a des oppositions et qu'on ne souhaite pas quelque chose, eh bien, quand on a du courage, on vient l'affirmer. Ils n'ont pas été capables de l'affirmer. Nous ne pouvons pas éternellement attendre des absents. La Calédonie doit avancer dans une grande difficulté aujourd'hui. Et donc, c'est l'avenir des Calédoniens qui nous a préoccupés autour de cette table. C'est le courage qui nous a animés pour avancer.
Virginie Rufnak a été interrogée sur le contenu de l'accord Élysée-Oudinot. Il précise, dit-elle, les conditions de transfert des compétences régaliennes et aussi de transfert des compétences aux provinces. Mais rien n'a changé sur les grands équilibres de l'accord de Bougival.
Sur les grands équilibres de l'accord, rien n'a changé. Le corps électoral, le fait de ne plus avoir de référendum oui ou non à l'indépendance, tout cela est stabilisé et n'a pas changé. Ce qui a été fait, c'est plutôt un éclaircissement en fait, de l'accord de Bougival. Donc les indépendantistes et l'UNI souhaitaient que ce fameux mécanisme sur les transferts de compétences, ça soit bien incarné par un droit à l'autodétermination. Donc ça a été explicité, mais aucun des équilibres n'a été modifié lorsque nous avons fait l'accord Élysée-Oudinot.
Et puis autre élément important dans cet accord, selon la chef du groupe du Rassemblement, les dispositions économiques qui offrent un très bon élan pour la relance.
D'abord, il y a 60 millions d'euros sous forme de subventions qui seront attribuées à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire 7 milliards de nos francs. 7 milliards, ça permet aussi à la Nouvelle-Calédonie de mettre en place son budget, ce qui n'était pas le cas avant cette séquence parisienne. Il y a aussi 10 millions d'euros, soit plus d'un milliard, qui seront destinés, entre guillemets, à la casse sociale, aux difficultés que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 années blanches où nous n'aurons pas à rembourser le prêt. Et enfin, c'est un point très très important, il y a un sorte de contrat de désendettement qui sera mis en place entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Et finalement qui se traduit par une transformation des prêts que nous avons perçus en subventions. Tout ça permet à la Calédonie de se remettre sur des rails sains sur lesquels le navire Nouvelle-Calédonie peut avancer. Et véritablement, on avait besoin de ça, sinon la Calédonie était vraiment en effondrement complet.
Virginie Rossin qui a évoqué également les prochaines élections municipales. Elle est candidate, on le sait, dans la ville de Nouméa. Une interview à retrouver en intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Les élections municipales sont-elles, selon vous, des élections politiques? Si vous pensez qu'elles le sont, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une mission sur le logement social et le renouvellement urbain débute aujourd'hui au Haut-Commissariat dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale conclu avec l'État. Trois experts nationaux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et de l'Union sociale pour l'habitat sont arrivés sur le territoire. Ils seront en mission jusqu'au 30 janvier. Ils animent depuis ce matin des travaux en atelier collectif avec les principaux acteurs calédoniens impliqués, les représentants des institutions, mais aussi les bailleurs sociaux, pour leur transmettre des expériences et des outils relatifs au renouvellement urbain et à la refonte du modèle économique du logement. Toujours en bref, des travaux à Nouméa entre le giratoire Alma Meto et l'échangeur de Tina. Pendant les 8 prochains mois, la province sud va renforcer la chaussée dans cette zone sur une surface d'environ 25 000 m² et créer une voie verte de 2 km sur la VDE. Les travaux prévoient également un réaménagement des bretelles sud de l'échangeur de Tina et la mise en place d'un éclairage public. Pendant la durée des travaux, la circulation sera modifiée de jour. La route sera praticable, mais avec une vitesse abaissée à 50 km/h. En revanche, de 20h à 5h du matin, une déviation sera mise en place. Le coût total des travaux s'élève à 670 millions de francs, dont 105 millions sont pris en charge par l'État. Et puis toujours en bref, les parkings du parc de la Dumbéa fermés temporairement dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi inclus. C'est en raison de la fin des travaux du chantier du barrage des poids lourds empruntent en effet les pistes et par mesure de sécurité, le parking du parc reste fermé. Quant aux randonneurs, ils sont invités à la vigilance dans le secteur, notamment la branche est du parc de la Dumbéa. L'actualité dans la région et les Australiens fêtent leur fête nationale. Elle commémore la première arrivée de la première flotte de navires britanniques à Sydney Cove le 26 janvier 1788. Une fête nationale sous une forte chaleur cette année sur une partie de l'île continent. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
À part le survol de certaines grandes villes par des appareils de l'armée de l'air et quelques salves de coups de canon, cette fête nationale n'a été marquée que par de simples prises d'armes. Au traditionnel défilé militaire qu'ils réservent à l'Anzac Day, les Australiens ont préféré les fêtes populaires et les animations gratuites, le tout dans une ambiance bon enfant. C'est ainsi qu'ils ont assisté à des envols de montgolfières, suivi la course des ferries qui sillonnent habituellement le port de Sydney, participé à des barbecues communautaires. Mais de façon générale, ils ont fêté l'événement en famille, raison pour laquelle plages et espaces verts ont été pris d'assaut des potrominés. Près de 25 500 migrants venus de 160 pays ont quant à eux choisi ce 26 janvier pour se faire naturaliser australiens. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et notez que des milliers d'aborigènes auxquels s'étaient mêlés des militants pro-palestiniens ont quant à eux manifesté dans les rues des principales grandes villes d'Australie pour demander à ce que ce 26 janvier, qu'ils appellent Invasion Day, ne soit plus célébré. Quant au consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie, il n'organise rien de particulier pour cette journée de l'Independence Day. Il est 11h45, une première pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et Emmanuel Macron veut aller vite sur son projet d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, mais aussi l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires. Il a choisi d'engager une procédure accélérée. Plutôt que d'attendre un texte du gouvernement, le dispositif va être porté par une députée Ensemble pour la République, Laure Miller. La volonté du chef de l'État, c'est que la mesure soit adoptée rapidement pour entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire métropolitaine.
J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat. Parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine.
Emmanuel Macron, dans un message vidéo adressé à BFM TV, la rentrée scolaire en métropole a lieu, je vous le rappelle, au mois de septembre prochain. Et puis, autre initiative législative, celle du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il veut mettre fin à la présomption d'innocence pour les crimes de sang, à savoir les assassinats, les meurtres ou encore les homicides. Après le Mercosur, l'Union européenne va-t-elle conclure un accord de libre-échange avec l'Inde ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend à New Delhi dans la semaine pour faire avancer, voire aboutir, cet accord en discussion depuis 20 ans. Une perspective qui risque d'attiser la colère des agriculteurs déjà vent debout contre le Mercosur et qui reçoivent le soutien de certaines collectivités, notamment les départements qui veulent interdire la viande importée d'Amérique latine et du Sud dans les cantines scolaires. Certaines mairies veulent aussi adopter le même principe, par exemple à Avion dans le Pas-de-Calais, où le maire devrait faire voter une motion en ce sens lors d'un prochain conseil municipal. Maximilien Carlier pour Europe 1.
Il n'y a rien de plus bête que de faire 8000 km à nos beefsteaks par cargo pour arriver dans l'assiette de nos enfants.
Les mots du maire communiste d'Avion, Jean Létocard, qui veut bannir la viande en provenance d'Amérique du Sud.
Nos agriculteurs français et européens font le travail mieux que quiconque. Nous, c'est pas du bœuf aux hormones, donc c'est une manière concrète de les soutenir.
Chaque jour dans cette ville, 800 repas sont servis dans les écoles. Les habitants saluent l'initiative de l'édile.
Je l'approuve totalement. Je soutiens à 100% les agriculteurs et je suis contre le Mercosur.
Ils utilisent des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser en Europe.
Pour le bien-être des enfants, je vais dire oui, puis pour préserver l'emploi de nos agriculteurs.
En espérant qu'il n'y aura pas d'incidence sur les tarifs à la cantine, poursuit une autre riveraine. La motion pour interdire la viande sud-américaine va être votée au prochain conseil municipal dans moins de 3 semaines.
Toujours en métropole, faut-il panthéoniser Samuel Paty ? La question revient avec insistance alors que le procès en appel de 4 des 8 personnes condamnées en première instance pour avoir participé à la décapitation du professeur d'histoire il y a 5 ans. Ce procès donc s'ouvre demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Alors Samuel Paty au Panthéon, qu'en pensent les Français ?
Que pour moi, il pourrait avoir sa place. Il ne s'inscrit pas dans la même lignée que les autres figures du Panthéon. Par contre, il représente quand même pour moi une figure française dans le sens où il a été quand même victime de l'islamisme. Donc pour moi, c'est aujourd'hui un combat qui est important.
C'était un enseignant de qualité qui a été tué par des fanatiques obscurantistes. Mais il a été surtout victime. Donc est-ce que le fait d'être victime suffit à être enterré au Panthéon ? Je ne sais pas.
Ça serait vraiment une première et un symbole d'unité aussi et de valeur française et de républicaine. Et
la liberté d'expression, c'est fondamental, d'autant plus au collège. Donc, et c'est important que tous les jeunes aient connaissance de l'histoire pour que l'histoire ne se reproduise pas. C'est un juste retour des choses, qu'il soit un minimum au Panthéon.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, et c'est le Groenland à New York et sur une large moitié des États-Unis. Avec une vague de froid intense et de fortes chutes de neige, par endroits les températures sont descendues jusqu'à moins 45 degrés. Une partie du pays est donc totalement paralysée. Laura Legault pour Europe 1.
Les autorités mettent en garde les Américains. Le froid qui s'abat sur les États-Unis peut être mortel, comme le martèle la gouverneure de l'État de New York.
À New York, nous avons l'habitude des hivers. Nous pensons être prêts. Mais si nous ne sommes pas attentifs, c'est là que commencent les problèmes. Et les risques sont très importants. 5 à 6 minutes seulement dehors peuvent être dangereuses pour votre santé. Alors, restez chez vous autant que possible.
20 États ont déclaré l'état d'urgence. Une large partie du pays est paralysée. Les routes sont gelées ou enneigées. Plus de 15 000 vols ont été annulés. Et dans le sud du pays, près de 900 000 foyers sont privés d'électricité. Dans le nord, depuis ce matin, la neige s'abat sur plusieurs villes, comme New York. Pierre-Louis vit dans le New Jersey. Il n'a jamais vu autant de neige.
Il y a beaucoup de neige. Ça fait 4 ans à peu près que je suis à New York et j'en avais jamais vu autant. C'est pas rare qu'on descende dans des températures très froides. Mais qui neige autant, c'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent.
La tempête pourrait se poursuivre jusqu'en début de semaine. Certains États ont d'ores et déjà annoncé la fermeture des écoles demain.
Dans une poignée de secondes, il sera 11h51. C'est l'heure d'une nouvelle pause dans ce journal avant d'ouvrir dans un instant notre Mac des sports du lundi.